Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent
terrible, j'ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé.
Assise près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Sur le bateau, nous étions presque toutes vierges. Nous avions de longs cheveux noirs, de larges pieds plats, et nous n'étions pas très grandes. Certaines d'entre nous n'avaient mangé toute leur vie durant que du gruau de riz, et leurs jambes étaient arquées. Certaines n'avaient que 14 ans, et c'étaient encore des petites filles. Certaines venaient de la ville et portaient d'élégants vêtements. Mais la plupart d'entre nous venaient de la campagne, et nous portions, pour le voyage, le même vieux kimono que nous avions toujours porté, hérité de nos sœurs, passé, rapiécé et bien des fois retint. Il était temps pour nous, à présent, de partir à notre tour.
Sur le bateau, la première chose que nous avons faite avant de décider qui nous aimerions et qui nous n'aimerions pas, avant de nous dire les unes aux autres de quelle île nous venions et pourquoi nous la quittions, avant même de prendre la peine de faire les présentations, c'est comparer les portraits de nos fiancés. Ils ressemblaient à nos frères, à nos pères restés là-bas, mais en mieux habillés, avec leur redingote grise et leur élégant costume trois pièces à l'occidentale. Tous avaient promis de nous attendre à San Francisco à notre arrivée au port. Sur le bateau, nous nous interrogions souvent. Nous plairaient-ils ? Les aimerions-nous ? Les reconnaîtrions-nous, d'après leurs portraits, quand nous les verrions sur le quai ?
Ce passage que viennent de vous lire Armel et Denise est le début du livre de Julie Otsuka, « Certaines n'avaient jamais vu la mer ». Ces voix de femmes relatent le sort de ces milliers de Japonaises, mariées de loin, est destinée à être les compagnes de ces Japonais qui s'étaient exilés aux États-Unis dans les années 1880. Ils constituaient la main-d'œuvre agricole de la côte Est. Comme elles ne connaissaient pas, avant leur arrivée sur le sol américain, leur mari, que par des photos, on les a appelées les « Pitcher's Bride ». Elles débarquent ainsi dans les années 1910-1920 pour rejoindre ces maris à qui elles étaient destinées. Le souvenir historique de ces événements est resté ignoré de la mémoire commune.
Sur le bateau, nous conservions la photographie de notre époux dans un minuscule médaillon ovale suspendu à notre cou au bout d'une longue chaîne. Sur le bateau, plusieurs d'entre nous emportaient des secrets qu'elles se juraient de ne jamais révéler à leur mari. Nous nous sommes mises à penser à autre chose. Au kimono que nous porterions le jour de notre arrivée, à notre coiffure, à ce que nous dirions quand nous le verrions. Parce qu'à présent, nous étions sur le bateau, le passé était derrière nous et il n'y avait pas de retour possible.
Sur le bateau, certaines d'entre nous venaient de Kyoto. Elles étaient blanches et délicates car elles avaient passé leur vie dans des pièces sombres au fond des maisons. Certaines étaient filles de paysans de la région de Yamaguchi. Elles avaient les épaules larges, les poignets épais et ne s'étaient jamais couchées au-delà de 9h du soir. Celles qui venaient d'Hiroshima, où la bombe exploserait, avait la chance d'être sur ce bateau, bien qu'à l'époque, nul n'en sache rien. La plus jeune d'entre nous avait 12 ans et n'avait pas encore ses règles. Mes parents m'ont mariée pour avoir l'argent de la dot. La plus âgée, 37 ans, était de Niigata et avait passé sa vie à s'occuper de son père, un invalide dont la mort récente la rendait à la fois heureuse et triste. Je savais que je ne pourrais me marier que s'il mourait. Une autre était issue d'un village dans la région de Fukushima, où l'on tissait la soie. Son premier mari était mort de la grippe, le deuxième l'avait quitté pour une femme plus jeune et plus jolie, qui habitait sur l'autre versant de la colline. Et à présent, elle partait pour les États-Unis afin d'épouser le troisième. Il est en bonne santé, il ne boit pas, il ne joue pas, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. L'une d'entre nous avait été danseuse à Nagoya. Elle était très élégante, avait une peau d'un blanc translucide et savait tout sur les hommes. Aussi est-ce vers elle que chaque soir nous nous tournions pour lui poser des questions. Combien de temps cela va-t-il durer? Avec la lumière allumée ou dans le noir? Les jambes en l'air ou posées? Les yeux ouverts ou fermés? Et si je ne peux pas respirer? Et si j'ai soif? Et s'il est trop lourd, trop gros? Et s'il ne veut pas de moi? En vérité, les hommes sont très simples, répondait-elle. Puis elle se mettait à nous expliquer. Sur le bateau, nous ne pouvions imaginer qu'en voyant notre mari pour la première fois, nous n'aurions aucune idée de qui il était. Que ces hommes massés, aux casquettes en tricot, ne ressemblaient en rien aux beaux jeunes gens des photographies. Que les portraits envoyés dans les enveloppes dataient de 20 ans. Que les lettres qu'ils nous avaient adressées avaient été rédigées par d'autres, des professionnels à la belle écriture, dont le métier consistait à raconter des mensonges pour ravir le cœur. Qu'en entendant l'appel de nos noms, depuis le quai, l'une d'entre nous se couvrirait les yeux en se détournant « Je veux rentrer chez moi !» Mais que les autres baisseraient la tête, lisseraient leur kimono et franchiraient la passerelle pour débarquer dans le jour encore tiède. « Nous voilà en Amérique, nous dirions-nous. Il n'y a pas à s'inquiéter. » Et nous aurions tort.
Nous avons lu le premier chapitre du texte de Julie Otsuka, « Certaines n'avaient jamais vu la mer ». Julie Otsuka est une écrivaine américaine d'origine nippone. Diplômée en art de l'université de Yale, elle a écrit « Quand l'empereur était un dieu ». Son second livre, celui que nous lisons, a remporté de très nombreux prix aux États-Unis. Et en France, le prix Femina étranger en 2012. Cette histoire renvoie à celle de sa famille. Son grand-père a été arrêté au moment de la guerre américano-japonaise, Deuxième Guerre mondiale, et ses parents mis en camp dans l'Utah.
Cette nuit-là, nos nouveaux maris nous ont pris à la hâte. Ils nous ont prises dans le calme, avec douceur et fermeté, sans dire un mot. Persuadés que nous étions vierges, comme l'avait promis la marieuse, ils nous ont traités avec les plus grands égards. Dis-moi si ça fait mal. Ils nous ont prises par terre, sur le sol nu du Minute Motel, en ville, dans les chambres de second ordre du Kumamoto Inn, dans les hôtels de San Francisco où un homme jaune était autorisé à pénétrer à l'époque, au Kinokuniya Hotel, au Mikado, à l'hôtel Ogawa. Nous leur appartenions et ils supposaient que nous ferions tout ce qu'ils nous demanderaient. S'il te plaît, tourne-toi vers le mur et mets-toi à quatre pattes. Ils nous ont prises par le coude en disant tranquillement « Le moment est venu ». Ils nous ont prises avant que nous ne soyons prêtes et nous avons saigné pendant 3 jours. Ils nous ont prises avec notre kimono de soie blanche relevé par-dessus la tête et nous avons cru mourir. J'avais l'impression d'étouffer. Ils nous ont prises avec gourmandise, voracité, comme s'ils attendaient ce moment-là depuis des siècles. Ils nous ont prises alors que nous souffrions toujours des nausées de la traversée et que le sol tanguait encore sous nos pieds. Ils nous ont prises dans la violence, à coups de poing, chaque fois que nous tentions de résister. Ils nous ont prises alors que nous les mordions, les frappions, les insultions. « Tu ne vaux même pas le petit doigt de ta mère !» En appelant au secours, nul n'est venu. Ils nous ont prises alors que nous nous agenouillions à leurs pieds, face contre terre, en les suppliant d'attendre. « Ne peut-on patienter jusqu'à demain ?» Ils nous ont prises avec maladresse, et nous ne les avons plus laissées nous toucher pendant 3 ans. Ils nous ont prises avec plus de dextérité que jamais auparavant et nous avons su que nous les désirerions toujours. Ils nous ont prises et nous avons crié de plaisir, puis nous nous sommes couverts la bouche de honte. Ils nous ont prises en vitesse de façon répétée toute la nuit durant et au matin, quand nous nous sommes réveillés, nous leur appartenions.
Après la première nuit de noces, commence un dur travail itinérant en compagnie des maris au service des Blancs. Nous nous installions à la lisière de leur ville quand ils nous laissaient faire. Quand ce n'était pas possible, « Prenez garde à bien quitter cet endroit avant le coucher du soleil », disaient parfois leurs écriteaux. Nous poursuivions notre chemin. Nous errions de campement en campement par leurs vallées brûlantes et poussiéreuses. Sacramento, Impérial, San Joaquin, aux côtés de nos nouveaux maris pour travailler leur terre. Nous cueillions les fraises à Watsonville. Nous cueillions leurs raisins à Fresno et Denner. À genoux, nous déterrions leurs pommes de terre avec des fourches sur Bacon Island, dans le Delta, où la terre était molle et spongieuse. À Holland Tract, nous trillions leurs haricots verts. Et une fois les récoltes terminées, nous remettions nos couvertures sur le dos et un sac de vêtements à la main, nous attendions le passage du prochain train pour pousser plus loin.
Dans cette vie difficile s'établissent des relations complices avec les patronnes blanches. Ce sont leurs femmes qui nous ont enseigné les choses dont nous avions le plus besoin. Comment allumer la cuisinière, comment faire un lit, répondre à la porte, serrer la main, ouvrir un robinet, car beaucoup d'entre nous n'en avaient jamais vu de leur vie. Comment répondre au téléphone en ayant l'air gai alors qu'on est triste ou en colère? Comment cuire un œuf, peler une pomme de terre, mettre la table, préparer en 6 heures un dîner pour 12 comportant 5 plats? Comment allumer une cigarette, faire des ronds de fumée? Friser ses cheveux pour ressembler à Mary Pickford? Comment nettoyer une tache de rouge à lèvres sur le col de la chemise préférée de votre mari, alors que ce n'est pas votre rouge à lèvres? Comment relever sa jupe dans la rue pour dévoiler juste ce qu'il convient de cheville? Il ne faut pas attirer le regard, pas aguicher. Comment parler à son mari, se quereller avec son mari, tromper son mari? Comment l'empêcher de trop s'éloigner de vous? Ne lui demandez pas où il est allé, ni à quelle heure il est rentré à la maison. Et assurez-vous qu'ils soient heureux au lit. Nous les aimions, nous les haïssions, nous voulions être elles, si grandes, si belles, si blanches, leurs longs membres gracieux, leurs dents éclatantes, leur teint pâle et lumineux qui masquait les 7 défauts du visage, leur manière étrange mais attachante, qui ne cessait jamais de nous amuser, leur goût pour la sauce, les souliers pointus à talons, leur drôle de démarche avec les orteils à l'extérieur, leur habitude de se rassembler dans le salon de l'une ou l'autre pour rester debout à parler toutes en même temps pendant des heures. Mais pourquoi, nous demandions-nous, ne s'asseyaient-elles jamais? Elles semblaient bien dans leur univers, tellement à l'aise. Elles possédaient une assurance qui nous faisait défaut et de bien plus beaux cheveux, avec tant de couleurs. Et nous regrettions de ne pouvoir leur ressembler davantage.
Cette admiration est paradoxalement réciproque. Elle nous donnait de nouveaux noms. Elle l'appelait Hélène ou Lily, ou bien Margaret, ou encore Pearl. Elle s'émerveillait de notre silhouette minuscule et de nos longs cheveux noirs et brillants. Elle nous complimentait sur nos capacités de travail. Cette fille ne s'arrête jamais avant d'avoir mené à bien sa tâche. Elle s'enorgueillissait de nos qualités auprès de leurs voisines. Elle s'enorgueillissait de nos qualités auprès de leurs amis. Elle prétendait nous préférer à tout autre personnel de maison. On ne peut pas trouver mieux. Quand elles étaient malheureuses et n'avaient personne à qui parler, elles nous confiaient leurs plus lourds secrets.
Malgré l'état charassant, le racisme ordinaire, elles préservent un rêve intérieur pour leur avenir et une conscience de l'importance économique de leur rôle. Un jour, nous étions-nous promis à nous-mêmes, nous partirions. Nous travaillerions dur afin d'économiser assez d'argent pour aller ailleurs, en Argentine peut-être, ou au Mexique, à Sao Paulo au Brésil, à Harbin en Mandchourie, où, d'après nos maris, un Japonais pouvait vivre comme un prince. Mon frère s'est installé là-bas l'année dernière et il a fait un tabac. Nous pourrions tout recommencer, ouvrir notre propre étal de fruits, notre compagnie commerciale, notre hôtel de première classe. Nous planterions une cerisaie, un bosquet de plaques miniers, achèterions des centaines d'hectares de riches champs blancs. Nous apprendrions des choses, nous ferions des choses, nous construirions un orphelinat, un temple. Nous prendrions le train pour la première fois, et une fois par an, le jour de notre anniversaire de mariage, nous mettrions du rouge à lèvres et nous irions au restaurant. Un endroit chic avec des nappes blanches. Mais en attendant, nous resterions en Amérique un peu plus longtemps à travailler pour eux. Car sans nous, que feraient-ils ?
Qui ramasserait les fraises dans leurs champs ?
Qui laverait leurs carottes ?
Qui récurerait leurs toilettes ?
Qui raccommoderait leurs vêtements ?
Qui repasserait leurs chemises ?
Qui redonnerait du moelleux à leurs oreillers ?
Qui changerait leurs draps ?
Qui leur préparerait le petit déjeuner ?
Qui débarrasserait leur table ?
Qui consolerait leurs enfants ?
Qui baignerait leurs anciens ?
Qui écouterait leurs histoires ?
Qui préserverait leurs secrets ?
Qui chanterait pour eux ?
Qui pleurerait pour eux ?
Qui danserait pour eux ?
Qui tendrait l'autre joue ? Et puis un jour, parce que nous serions fatigués, parce que nous serions vieux, parce que nous en serions capables, leur pardonnerait ?
Un imbécile, forcément.
Alors, nous replions nos kimonos pour les ranger dans nos malles et ne plus les ressortir pendant de longues années.
Faire l'amour dit naissance. Nous avons accouché sous un chêne l'été par 45 degrés.
Nous avons accouché près d'un poêle à bois dans la pièce unique de notre cabane par la nuit la plus froide de l'année.
Nous avons accouché sur les îles venteuses du Delta 6 mois après notre arrivée. Nos bébés étaient minuscules, translucides et ils sont morts au bout de 3 jours.
Nous avons accouché 9 mois après avoir débarqué, de bébé parfait, à la tête couverte de cheveux noirs.
Nous avons accouché dans des campements poussiéreux, parmi les vignes.
Nous avons accouché dans des fermes reculées d'Imperial Valley, avec la seule aide de nos maris, qui avaient tout appris dans « Le compagnon de la ménagère ». Mettez une casserole d'eau à bouillir.
Nous avons accouché à Rialto, à la lumière d'une lampe à pétrole, sur une vieille couverture de soie que nous avions apportée du Japon dans notre malle. Elle a encore l'odeur de ma mère.
Nous avons accouché comme Maquillo dans une étable au bord de Maxwell, allongée sur une épaisse paillasse. Je voulais être près des animaux.
Nous avons accouché seuls dans une pommeraie de Sébastopol, après être allés chercher du petit bois par un matin d'automne inhabituellement clément, là-haut, dans les collines. J'ai coupé le cordon avec mon couteau et j'ai emporté ma fille dans mes bras.
Nous avons accouché de tant d'enfants que nous avons vite perdu le compte des années.
Quelle sera la vie de ces enfants qu'elles viennent de mettre au monde ? Nous les déposions doucement dans des fossés, des sillons, dans des paniers d'osier sous les arbres. Nous les laissions tout nus sur des couvertures, par-dessus des nattes de paille tressées, à la lisière des champs. Nous les installions dans des cageots de pommes vides et les prenions dans nos bras, chaque fois que nous finissions de biner une rangée de haricots. En grandissant, ils sont devenus plus turbulents et parfois nous les attachions sur leurs chaises. Au cœur de l'hiver, nous les accrochions sur notre dos, à Reading, pour aller tailler les vignes. Mais certains matins, il faisait si froid que leurs oreilles gelaient et saignaient. Au début de l'été, à Stockton, nous les laissions dans des rigoles toutes proches, tandis que nous ramassions les premières prunes et déterrions les oignons pour les mettre dans des sacs. Nous les laissions jouer avec des baguettes en notre absence, et les appelions de temps à autre pour qu'ils sachent que nous étions toujours là. « N'embête pas les chiens, ne touche pas aux abeilles, ne t'éloigne pas, sinon papa sera furieux. » Mais quand ils se lassaient et se mettaient à pleurer, nous continuions à travailler, car si nous nous arrêtions, nous savions bien que jamais nous ne parviendrions à payer nos dettes. Maman ne peut pas venir. Au bout d'un moment, leurs appels se faisaient moins pressants et leurs sanglots cessaient. À la fin du jour, quand la lumière disparaissait du ciel, nous allions les réveiller à l'endroit où ils s'étaient endormis et nous époussetions la terre de leurs cheveux. Il est temps de rentrer à la maison.
En général, nos maris n'avaient rien à faire avec eux. Jamais ils ne changeaient une couche, jamais ils ne lavaient la vaisselle sale, jamais ils ne touchaient un balai. Le soir, nous avions beau être épuisés quand ils rentraient des champs, ils s'asseyaient pour lire le journal, tandis que nous préparions le dîner pour les enfants, faisions la vaisselle et raccommodions des piles de vêtements tard dans la soirée. Jamais ils ne nous laissaient dormir avant eux. Jamais ils ne nous laissaient nous lever après le soleil. Tu donnerais le mauvais exemple aux enfants. Jamais ils ne nous accordaient ne serait-ce que 5 minutes de répit. C'étaient des hommes taciturnes, usés, qui entraient et sortaient de la maison dans leur bleu de travail, boueux, en marmonnant des choses au sujet des drageons, du prix des haricots verts, du nombre de caisses de céleri qu'ils espéraient récolter cette année-là. Ils s'adressaient rarement à leurs enfants, ni même semblaient se rappeler leur nom. « Dis au troisième garçon de se tenir droit quand il marche !» Et quand l'ambiance à table devenait trop bruyante, ils frappaient dans leurs mains et s'écriaient « Ça suffit !» Leurs enfants, en retour, préféraient ne pas leur parler du tout. Lorsqu'ils avaient quelque chose à leur dire, ils passaient toujours par notre intermédiaire. « Dis au père que j'ai besoin de 5 cents !» Dis au père qu'il y a un problème avec un des chevaux. Dis au père qu'il a raté un coin en se rasant. Demande au père pourquoi il est si vieux.
Dès que possible, nous les avons mis au travail dans les champs. Certains étaient lents, rêveurs, capables de repiquer toute une rangée de choux-fleurs à l'envers, par erreur. D'autres savaient trier les tomates plus vite que l'ouvrier le plus expérimenté. Beaucoup se plaignaient. Ils avaient mal au ventre, à la tête. La poussière leur irritait atrocement les yeux. Certains enfilaient leurs bottes chaque matin sans qu'on ait besoin de leur demander. L'un d'eux avait ses sécateurs préférés, qu'il affûtait tous les soirs dans la grange après le dîner et que personne n'avait le droit de toucher. L'une pensait sans cesse aux insectes. Il y en a partout. Une autre un jour s'est assise parmi les rangs d'oignons en disant qu'elle aurait préféré ne jamais naître. Et nous nous demandions si nous avions bien fait de les mettre au monde. Jamais nous n'avons eu l'argent pour leur acheter des jouets. Pourtant, ils jouaient, pendant des heures, tels des petits veaux dans les champs. Ils jouaient à cache-cache, au clair de lune dans les vergers, tout comme nous le faisions au Japon. Ils jouaient à donner des coups de pied dans des boîtes de conserve, à lancer des couteaux, à pierre-feuille-ciseaux. Ils faisaient des concours pour savoir lequel d'entre eux pouvait confectionner le plus de cajots la veille du jour du marché et qui tenait le plus longtemps suspendu à une branche de noyer sans lâcher.
Un par un, les mots anciens que nous leur avions enseignés disparaissaient de leur tête. Ils oubliaient le nom des fleurs en japonais. Ils oubliaient le nom des couleurs. Celui du dieu renard, du dieu du tonnerre, celui de la pauvreté auquel nous ne pouvions échapper. Aussi longtemps que nous vivrons dans ce pays, jamais ils ne nous laisseront acheter la terre. Ils oubliaient le nom de la déesse de l'eau, Mizugami, qui protégeait nos rivières, nos ruisseaux et insistait pour que nos puits soient propres. Ils oubliaient les mots pour dire « lumière de neige », « criquer à clochette » et « fuir dans la nuit ». Ils oubliaient les paroles qu'il fallait prononcer devant l'autel dédié à nos défunts ancêtres qui travaillaient sur nous nuit et jour. Ils oubliaient comment compter, comment prier. Ils passaient à présent leur journée immergés dans cette nouvelle langue dont les 26 lettres nous échappaient toujours alors que nous vivions en Amérique depuis des années. Tout ce que j'ai appris, c'est la lettre X pour pouvoir signer à la banque. Ils prononçaient sans mal les L et les R. Et même quand nous les envoyions étudier le japonais au temple bouddhiste le samedi, ils n'apprenaient rien. La seule raison pour laquelle il y va, c'est pour échapper au travail de la boutique. Mais quand nous les entendions parler dans leur sommeil, les mots qui sortaient de leur bouche, nous en étions certaines, étaient japonais.
Ainsi, peu à peu, s'efface la culture japonaise pour laisser place à la culture américaine où ils rêvent de réussir. Nous les reconnaissions à peine. Ils étaient plus grands que nous, plus massifs, bruyants au-delà de toute mesure. Je sens comme une canne qui a couvé des œufs d'une oie. Ils préféraient leur propre compagnie à la nôtre et feignaient de ne pas comprendre un traître mot de ce que nous disions. Nos filles marchaient à grands pas, l'américaine, elles se déplaçaient avec une hâte dépourvue de dignité. Elles portaient leurs vêtements trop lâches, roulaient des hanches comme des juments, jacassaient comme des coulis dès qu'elles rentraient de l'école, en disant tout ce qui leur passait par la tête. « Mr. Dempsey a une oreille pliée !» Nos fils devenaient énormes, ils insistaient pour manger des œufs au bacon tous les matins au petit déjeuner, à la place de la soupe à la pâte de haricots. Ils refusaient d'utiliser des baguettes. Buvaient des litres et des litres de lait, inondaient leur riz de ketchup. Ils parlaient un anglais parfait, comme à la radio, et chaque fois qu'ils nous voyaient nous incliner devant le dieu de la cuisine en frappant dans nos mains, ils roulaient des yeux et nous lançaient « Maman, pitié !» Surtout, ils avaient honte de nous, de nos pauvres chapeaux de paille, de nos vêtements miteux, de notre accent prononcé, de nos mains calleuses, craquelées. Ils voulaient de vrais pères qui partent travailler le matin en costume cravate et ne tondent la pelouse que le dimanche. Ils voulaient des mères différentes, meilleures, qui n'aient pas l'air aussi usées. Tu ne peux pas mettre un peu de rouge à lèvres ?
Arrive la Deuxième Guerre mondiale qui opposera en particulier les États-Unis au Japon. Au moment de l'attaque de Pearl Harbor 1941, les rumeurs ont commencé de circuler. Les rumeurs ont commencé à nous parvenir dès le deuxième jour de la guerre. On parlait d'une liste, de gens enlevés au milieu de la nuit, d'un banquier parti pour son bureau et qui n'en était jamais revenu, d'un barbier disparu pendant sa pause déjeuner, de quelques pêcheurs manquant à l'appel, ici et là, d'une pension où les forces de l'ordre avaient fait une descente, d'un commerce saisi, d'un journal fermé. Mais tout cela se passait ailleurs, dans des vallées reculées, des bourgades éloignées, à la ville où les filles portent des talons hauts, du rouge à lèvres, et dansent toute la nuit. Rien à voir avec nous, disions-nous. Nous demeurions des femmes simples, qui vivaient tranquillement et restaient entre elles. Nos maris n'auraient rien à craindre. Pendant plusieurs jours, nous sommes restés chez nous, volets clos à écouter les nouvelles de la guerre à la radio. Nous avions effacé nos noms des boîtes aux lettres, retiré les souliers posés devant nos portes. Nous n'envoyions plus nos enfants à l'école. La nuit, nous tirions les verrous et parlions à voix basse. Nous fermions bien les fenêtres. Nos maris buvaient plus que d'habitude et s'écroulaient tôt dans leur lit. Nos chiens s'endormaient à nos pieds. Aucun homme ne venait frapper à notre porte.
Au fil de ces pages, nous prenons conscience que les comportements des oppresseurs se répètent à travers le monde avec les arrestations arbitraires, les déportations, les disparitions. On disait que les hommes avaient été mis dans les trains et qu'on les envoyait au loin, dans les montagnes, dans les régions les plus froides du pays. On disait qu'ils collaboraient avec l'ennemi et seraient expulsés dans les jours à venir. On disait qu'ils avaient été fusillés. Beaucoup des nôtres considéraient les rumeurs comme des rumeurs. Pourtant, nous nous surprenions à les propager malgré nous, de façon hystérique, sans réfléchir, contre notre volonté. D'autres refusaient de parler des disparus le jour, et la nuit ils revenaient hanter leurs songes. Quelques-unes parmi nous rêvaient d'être les disparus. L'une des nôtres, Shizuko, qui dirigeait la cuisine au ranch Kearney et préparait toujours tout à l'avance, avait fait une petite valise pour son mari, qu'elle laissait poser près de la porte d'entrée. Dedans, une brosse à dents, de quoi se raser, un savon, une tablette de chocolat, son préféré, et des vêtements de rechange. Elle savait qu'il aurait besoin de tout cela, si son nom apparaissait sur la prochaine liste. Toujours, pourtant, elle éprouvait cette crainte vague, mais qui la démangeait, d'avoir omis quelque chose, un petit article crucial qui, à une date inconnue, dans l'avenir, devant un tribunal inconnu, servirait à prouver de manière incontestable l'innocence de son époux. Mais, se demandait-elle, de quoi pouvait-il bien s'agir ? D'une Bible ? Une paire de lunettes ? Un savon différent ? Plus parfumé ? Plus viril ? On dit qu'un prêtre Shinto a été arrêté dans la vallée parce qu'il possédait une flûte d'enfants en bambou. Que savions-nous exactement de cette liste ?
Quelques-unes parmi nous ont commencé à recevoir des lettres anonymes les informant que leurs maris étaient les prochains. On nous a donné l'ordre d'aller nous inscrire auprès des autorités et de remettre à la police locale toutes les marchandises de contrebande. Dans les journaux et à la radio, on commençait à parler de déportation de masse. Un chat effrayé a plongé sous le lit dans l'une de nos maisons quand les pillards ont défoncé la porte d'entrée, rideaux déchirés, verres brisés, vaisselle de mariage fracassée sur le plancher. Nous savions que c'était seulement une question de temps avant que toute trace de notre présence disparaisse.
À ce moment-là, la narration bascule. Les Japonais sont partis. Et c'est la population américaine qui, maintenant, ressent douloureusement l'absence de ceux qu'elle a côtoyés pendant si longtemps. Et le « nous » est désormais pris en charge par la communauté américaine. Ce sont nos enfants qui semblent prendre la disparition des Japonais le plus à cœur. Ils répondent plus que d'habitude, refusent de faire leurs devoirs. Ils sont anxieux, font des histoires. Ceux qui n'avaient jamais peur le soir redoutent à présent d'éteindre la lumière. Chaque fois que je ferme les yeux, je les vois, dit l'une. Un autre pose des questions. Où peut-il aller les chercher? Y a-t-il une école là où ils sont? Et que doit-il faire du pull de Lester Nakano? Je le garde ou je le jette? À l'élémentaire Lincoln, toute une classe d'enfants de 7 ans a réussi à se convaincre que leur petit camarade japonais s'était perdu dans la forêt. Il mange des glands et des feuilles et une petite fille a oublié son gilet. Alors elle a froid, raconte une fillette. Elle grelotte et elle pleure. Ou bien elle est morte. Oui, elle est morte, acquiesce son voisin. La maîtresse raconte que le moment le plus dur de la journée à présent, c'est l'appel. Elle montre les trois pupitres déserts. Oscar Tajima, Alice Okamoto et sa préférée, Dolores Niwa, si timide. Chaque matin, elle prononce leur nom, mais bien sûr, ils ne répondent jamais. Alors je continue de les marquer absents. Que puis-je faire d'autre? C'est une honte, déclare l'agent de la circulation préposé à l'école. C'était de bons petits. Ils vont me manquer.
Mais rapidement, l'oubli fait son travail. Aux premières gelées, leur visage commence à se brouiller, à s'effacer de nos mémoires. Leur nom nous échappe. C'était Monsieur Kato ou Sato? Les lettres cessent d'arriver. Nos enfants, à qui il manquait tant, ne nous demandent plus où ils se trouvent. Les plus jeunes se souviennent à peine d'eux. « Je crois que j'en ai vu un, une fois, » nous disent-ils. « Ou bien, est-ce qu'ils n'ont pas tous les cheveux noirs ?» Et au bout d'un moment, nous nous apercevons que nous parlons d'eux au passé. Certains jours, nous oublions qu'ils étaient parmi nous, même s'ils ressurgissent souvent tard le soir à l'improviste dans nos rêves. C'était le fils du monsieur qui avait les serres, Elliot. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter, qu'ils vont bien, qu'on les nourrit bien et qu'ils jouent au baseball toute la journée. Mais le matin, en nous réveillant, malgré tous nos efforts, nous ne parvenons pas à les ancrer dans nos esprits.
Nous espérons que la lecture de ces quelques extraits de Certaines n'avaient jamais vu la mer, œuvre de l'écrivaine américaine d'origine japonaise Julie Otsuka, parue aux éditions Phébus Littérature étrangère, vous donnera envie de lire cet ouvrage dans son intégralité. Cette émission a été préparée et lue par Christine, Armel et Denise. La musique est le fruit de la rencontre de la compositrice et interprète japonaise Mieko Miyazaki au Koto et Guo Gan, musicien chinois à Leru. À la technique, Vincent. Au revoir.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5. ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez